Je vous propose une première lecture dans le livre de Jérémie, au chapitre 29. Jérémie 29, et au verset 13, il y a une loi que Dieu établit. Quand Dieu dit quelque chose, ça se vérifie toujours, dans la mesure où on fait ce qu'il nous dit. Et au verset 13, on lit ceci, « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Donc, si on comprend bien ce verset, si on cherche Dieu de tout notre cœur, eh bien, la conclusion est simple, c'est qu'on va le trouver, tout simplement. Mais, la condition de le chercher de tout notre cœur est quand même importante. Une autre vérité, dans Luc, au chapitre 19, au verset 10, c'est Luc qui conclut sur l'histoire de Zachée et qui dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ici, il résume beaucoup de choses, il résume beaucoup de choses qu'il a écrites jusqu'à présent dans son évangile, et il ne résume pas que l'affaire de Zachée, il résume beaucoup de choses, et il nous rappelle à quel point Dieu, lui aussi, est venu nous chercher. Donc si il est venu nous chercher ainsi que nous étions perdus, eh bien j'aimerais aussi qu'on puisse lire cette lecture dans le livre des Actes au chapitre 17, et c'est la prédication que Paul va donner aux gens d'Athènes. On commence la lecture au verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu, pour le trouver si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à des personnes qui raisonnent beaucoup, des personnes qui aiment réfléchir et raisonner en public pour le simple plaisir de raisonner et de réfléchir. Et ici, ce message, quelque part, est lié un peu à ça. Un message qui a pour titre « La vie qui retrouve un sens ». Et ici, il est état d'une situation où finalement l'apôtre Paul s'adresse à des personnes qui ont été capables de faire un autel à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, juste au cas où. Des fois qu'on pourrait le vexer, il voulait quand même l'adorer quand même. Mais c'est montrer un peu toute l'ignorance qu'avaient les Athéniens. Ils allaient à droite, à gauche, et il y avait un Dieu pour tout. Un Dieu pour tout. Et ils avaient tellement peur. Ils avaient tellement peur de se planter qu'il y avait un Dieu pour tout. Et quelque part, c'est un peu la marque de cette société gréco-romaine qui quelque part, avait quand même un sens de la religiosité, mais ils allaient à droite et à gauche, et ils ne savaient pas où ils allaient. Pourtant, on voit dans la parole de Dieu que Dieu a créé l'homme et l'avait placé dans un jardin. On voit que dès le départ, dès l'origine, la vie de l'homme, même si on le découvre en y réfléchissant, c'est pas directement dans le texte, on le discerne, Dieu a créé l'homme avec un sens à sa vie. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui avait dit de nommer les animaux du jardin. Il était investi d'une mission, à savoir d'observer, si je résume, d'observer la création. Pourquoi ? Parce qu'en observant la création, et pas que les animaux d'ailleurs, que découvre l'homme ? Dieu qui se cache partout, partout. Que ce soit dans les animaux qu'il a créés, que ce soit dans les plantes, que ce soit dans l'organisation de la végétation, que ce soit dans tout plein de choses, finalement, l'homme qui cherche, il va trouver à droite et à gauche des panneaux indicateurs, des signes qui montrent, qui révèlent un peu qui est Dieu, qui révèlent un peu toute sa sagesse, qui révèlent sa préscience, la beauté même de la création. Dans le psaume 19, verset 2, il est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Quand Job en vient à douter de son existence, il en vient à se poser beaucoup de questions sur le sens de sa vie, etc. Qu'est-ce que Dieu va l'amener à faire ? À regarder la nature, à regarder les choses. Pourquoi ? Parce que quand Dieu l'invite ainsi à regarder la nature, il veut l'amener sur un terrain où il va se retrouver dans une incompréhension. Parce que les questions de Dieu amènent l'homme à réaliser que dans l'invisible, il n'arrive pas à comprendre. Déjà dans le visible, il n'arrive pas à comprendre comment les choses se font, comment comprendre celles qui sont invisibles. Et ici, la nature, eh bien, ce sont des choses que Dieu a placées autour de nous, les animaux, des plantes, des étoiles, tout. Et quand on y regarde de plus près, on y voit toujours sa marque. On y voit toujours, quelque part, ce qu'il veut nous faire découvrir. En regardant les fourmis, on va s'apercevoir que ce sont des êtres sociaux, quand bien même ils sont minuscules. Et qu'il y a comme une intelligence dans la fourmilière. Si on regarde les abeilles, c'est la même chose. Il y a quelque chose de supérieur qui les lie toutes entre elles. Et quand on regarde ça, on est émerveillé de voir ces choses-là. Et ces choses nous parlent, quelque part, de ce qu'est Dieu. Dieu voulait, en regardant la nature, qu'on puisse réaliser qui il est. Et j'imagine, du temps d'Adam et Ève, quand le soir, Dieu parcourait le jardin, avant le péché, qui devait lui dire « Alors, qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui ?» Et là, on imagine la réponse d'Adam. « Ben, j'ai vu ça, j'ai vu ça. »« Ah, d'accord. Et alors, t'en conclus quoi ?»« C'est bien. » J'imagine plein de choses. Mais il devait y avoir une réelle communion. Et à travers le regard sur les choses, l'homme était amené, finalement, à découvrir toujours un peu mieux son auteur. C'était, quelque part, le sens initial qu'avait l'homme à sa vie. Et il y avait du pain sur la planche, parce qu'il y avait des tas de choses à découvrir. Que je sache, la nature est loin d'avoir révélé tous ses secrets aujourd'hui encore. On voit là encore toute la dimension infinie de ce que Dieu avait préparé pour nous. Seulement, on voit une chose, c'est que alors que l'homme a en lui cette capacité à vouloir toujours chercher, comprendre, c'est en nous ça. On veut comprendre, on veut chercher, c'est comme ça. Dieu, à l'inverse, est le parfait complément parce que lui, il se plaît à nous à se révéler. Alors que nous, on se plaît à chercher, lui se plaît à révéler. Et ainsi, à l'origine, c'était parfait. Parce que là où l'homme arrive à chercher et à découvrir des choses, derrière, Dieu révèle encore des choses. Et c'est ainsi que l'homme se retrouve pris dans un cercle vertueux où, avec Dieu, tout était au beau fixe. Seulement, c'est pas resté ainsi. Et à un moment donné, l'homme a tourné le dos à Dieu. Et il y a ce texte qu'on trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 15, verset 2, qui dit ceci : « Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Non pas que Dieu se venge en nous abandonnant, mais que Dieu nous respecte trop. À partir du moment où on exprime notre désir de faire sans lui, eh bien, il ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Et ce texte est encore une loi qui est établie. L'homme qui refuse Dieu, il restera seul. Mais malheureusement, l'abandon de Dieu signifie beaucoup de choses. Et alors que l'homme avait des certitudes, en abandonnant Dieu, il va trouver des doutes. Alors que l'homme connaissait la sécurité, il va connaître le danger. Alors que l'homme pouvait goûter à la paix et au repos, il va connaître la guerre et la peine. Voilà quelques exemples de ce à quoi mène l'abandon de Dieu. L'homme livré à lui-même se retrouve bien incapable. Il se retrouve dans un grand problème parce que il perd aussi, c'est ce qu'on va voir, il perd le sens même à sa vie, à sa propre vie. Il se retrouve nez à nez avec un paradoxe insoluble. En rejetant Dieu, l'homme quelque part rejette aussi la notion d'éternité, parce que l'homme rejette Dieu et il se dit que finalement, un jour il naît, un jour il meurt, ainsi va la vie. Mais la nature de l'homme est ainsi faite, il continue de chercher. C'est en nous, on n'y peut rien. L'homme, il cherche, il veut comprendre, il veut découvrir, il veut toujours aller plus loin dans sa connaissance. Mais là où le péché est une conséquence de ce rejet, c'est qu'il va amener l'homme sur une fausse piste. L'homme va se retrouver non plus à chercher pour connaître Dieu, mais il va se dire finalement, comme il se fait Dieu, il va chercher pour lui-même, dans le but d'amasser, dans le but de vivre pour lui. Et on mesure toute l'importance de la question de Jésus qui dit « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Ou « Que donnera un homme en échange de son âme ?» Le péché a fait de l'homme quelqu'un de vraiment égoïste. Et il n'a pas d'autre but que d'amasser, que de vivre pour lui. Et quand on y réfléchit bien, c'est terrible. Parce que si on considère les choses, l'homme va amasser des tas de choses pour lui-même. Et pourtant, tout ce qu'il va amasser va servir à quelqu'un d'autre. L'homme ainsi se retrouve nez à nez avec un problème de cette logique, c'est que l'homme qui se retrouve à amasser se retrouve contraint de laisser tout ce qu'il a amassé à quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que la mort est là. On peut avoir amassé tout un tas de choses, on se retrouve contraint de devoir laisser à quelqu'un d'autre, alors que le but de notre vie était d'amasser pour nous-mêmes. N'est-ce pas malheureux ? Est-ce que c'est pas... Moi, je trouve que, quelque part, dans cette logique, l'échec est cuisant, vous ne trouvez pas ? On passe notre vie à amasser pour nous-mêmes, alors qu'au final, on doit laisser tout pour quelqu'un d'autre, pour ceux qui vont nous suivre. C'est triste, mais quand on mesure ça, on se dit, mais à quoi ça sert ? Là, on commence à revenir sur la bonne piste, parce que on commence à se dire, mais c'est pas, il y a un problème. Je vais pas passer ma vie à amasser pour tout laisser à quelqu'un d'autre. C'est pas logique. Quand on commence à réfléchir là-dessus, on n'a pas d'autre conclusion que de se dire, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et le paradoxe, c'est que Dieu a aussi créé l'homme de telle manière que l'homme, il aime donner du sens à tout ce qu'il fait. C'est bien dommage, hein ? L'homme, si imaginez quelqu'un, il prend un objet, il le met là, puis après il le met là. Vous lui posez la question, pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas, pour rien. On lui dirait quoi ? Il dit, ben, il y a quelque chose qui va pas, là. Parce que c'est comme ça. L'homme, dans tout ce qu'il fait, qu'on le veuille ou non, dans tout ce que nous faisons, on donne du sens à nos actions, à nos paroles, à tout ce qu'on peut faire de notre vivant. Tout ce qu'on fait a forcément un sens. Ou alors on dit qu'il a justement perdu le sens, qu'il a perdu la raison, quand on fait des choses, c'est parce que on sait pourquoi. L'homme, quand il agit de telle ou telle manière, il sait pourquoi. Et finalement, quand on perd le sens, eh bien, on est comme fou, on est devant une désillusion. L'homme est fait pour chercher, l'homme aussi aime donner du sens à tout ce qu'il fait, et finalement, quand il réfléchit à sa propre vie, les questions qu'il peut se poser quand il a rejeté Dieu, c'est qu'il va amasser, ça servira à quelqu'un d'autre, il n'y a plus de sens, et il va se dire, à quoi bon ? Il va se dire finalement que la vie n'a aucun sens. Ça ne sert à rien de vivre. Il n'y a aucune raison valable de vivre. Il y a un texte dans la parole qui dit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Quelqu'un qui a perdu le sens, c'est un peu comme quelqu'un qui est perdu. Il ne sait plus dans quelle direction aller. Il ne sait plus quoi faire parce qu'il se dit de toute manière, à quoi bon ? À quoi ça va servir ? Et c'est tout le problème de l'humanité qui rejette Dieu. Parce que la vie sans Dieu, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens, absolument aucun. Quelqu'un qui, si on imagine, quelqu'un qui a un but absolu dans sa vie, quand bien même il l'atteindrait, à partir du moment où il l'atteint, il va se dire, maintenant que j'ai atteint mon but, qu'est-ce que je fais ? Et on a souvent entendu des cas de dépression nerveuse de personnes qui avaient gagné au loto. J'ai souvent lu ça. Les personnes, elles avaient absolument tout ce qu'elles voulaient. Tout ce qu'elles pouvaient faire, elles le faisaient. Mais finalement, il en arrive une situation qui est terrible, c'est que la personne se retrouve blasée parce qu'elle n'a plus aucun but dans sa vie. Elle n'a plus de sens non plus parce qu'elle peut faire absolument ce qu'elle veut. Et elle se rend compte justement à quel point l'argent ne fait pas le bonheur. Elle se rend compte à quel point on peut chercher des choses, mais il y aura toujours un manque. Il y aura toujours quelque chose qui manque. Dieu nous compare à des brebis errantes quand on le refuse. Et à cause de ce refus, Dieu lui-même est malheureux de nous voir ainsi, de nous voir errants, de nous voir malheureux, pleurant sur nous-mêmes parce qu'on ne sait pas quoi faire de notre vie, on ne sait pas de quoi sera fait demain. On se retrouve bien malheureux quand on se retrouve loin de lui. Et Dieu, dans son amour, a trouvé une solution. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, marcher parmi nous. Il y a un verset dans la parole qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle, donc ça veut dire que l'homme, eh bien, il est éternel. Parce que si je peux avoir la vie éternelle, ça veut dire que quelque part, il y a une dimension éternelle en moi. C'est ce que dit aussi ce verset. Mais quelque part, si l'éternité existe, ça veut donc dire qu'il faut que je sache dans quelle direction je vais aller. On voit aussi que quelque part, on peut dire que l'éternité n'existe pas, néanmoins, ça c'est un point de vue. La Bible, elle nous parle d'éternité. Et on peut rejeter une notion, pour autant, c'est pas pour autant que la réalité n'existe pas. L'éternité existe. Dieu existe. Et il nous faut réfléchir à ces choses. Et tous ces paradoxes qui sont là. L'homme qui a perdu le sens, l'homme qui ne sait pas ce qu'il y a après la mort, ce manque perpétuel, pourquoi on en arrive toujours à se poser la question de pourquoi je vis ? Combien de personnes se suicident parce qu'elles ont perdu un sens à leur vie ? Elles se disent « je ne sers à rien dans ce monde ». Et elle se supprime. On l'a tous entendu au moins une fois dans sa vie, cette réflexion. Pourquoi ? Parce que l'homme est ainsi fait. Il faut qu'il donne du sens à son existence. Et la seule manière d'avoir du sens à notre existence, c'est avec Dieu. Parce que Dieu a créé en nous des choses, des réflexes, qui font qu'on se tourne vers lui. Mais quand on a choisi de le rejeter, ce qu'il y a de naturel en nous qui nous rapprocherait de lui se retrouve sans réponse. Si on le rejette, voilà le problème. C'est un vrai paradoxe. Et les gens qui refusent Dieu, eh bien, ne savent pas donner de réponse à ces choses. Ne savent pas donner de réponse à la vie après la mort. Ne savent pas donner de réponse à un sens, à une vie. Ils ne savent pas. Quand on remet Dieu dans notre vie, quand on remet Dieu au centre, tout s'éclaire à nouveau. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme a bien une dimension éternelle en lui, qu'il le veuille ou non. Et l'éternité se prépare de son vivant. C'est pour ça que l'apôtre Paul, si je reviens à mon texte dans le livre des Actes, il dit ceci aux Athéniens, « Sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant des morts. Le péché qui est en nous, c'est ainsi ce refus de Dieu, c'est le péché. Et ce péché va nous amener à centrer sur nous, à faire de nous un Dieu. Ce péché va nous amener à être égoïste. Ce péché va nous amener à faire toujours en sorte de passer au-dessus des autres. Et c'est ainsi qu'il y a des rivalités, des guerres. C'est ainsi qu'il y a toutes ces choses qui sont malheureuses sur cette terre. C'est le péché. Et il nous prive de la gloire de Dieu. Notre rejet de Dieu va aboutir à quelque chose dans l'éternité. C'est d'être privé de Dieu. Et notre désir de le rechercher, à l'inverse, peut aboutir sur quelque chose d'autre, c'est d'être auprès de Dieu. Et il nous faut nous poser la bonne question. Qu'est-ce que je vais faire après cette vie? Où est-ce que je vais? Il me faut savoir. Et il me faut savoir parce que, en trouvant la bonne réponse à cette question, c'est ainsi que ma vie va reprendre du sens. On a besoin de Dieu. Sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. Il me faut savoir le reconnaître, tout simplement. Jésus a dit, et on l'a chanté, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Autrement dit, dans l'éternité. « Ma vie ne retrouvera un sens que par Jésus-Christ. » C'est lui seul qui est venu sur la terre. Il a marché sur cette terre sans commettre de péché. Il est venu mourir sur une croix pour nous tous qui sommes là. Il est ressuscité juste après, prouvant encore par là qu'il y a bien une vie après la mort. Ce Jésus qui est mort, est ressuscité, et il est apparu à plusieurs. Comme l'apôtre Paul le dit, il y a eu des preuves de sa résurrection. Pour cela, je fais référence à la prédication que j'ai donnée mardi. La résurrection de Jésus a été prouvée. Et on a, par là, justement, un chemin qui nous dit, il y a une vie après la mort, c'est sûr. C'est sûr et certain, parce que Jésus est ressuscité, et il est monté au ciel, il est encore vivant aujourd'hui. Et les miracles qu'ont opéré les disciples l'attestent. Le fait même que des personnes soient prêtes à affronter la mort en étant dans la paix, que des personnes soient prêtes à affronter la mort pour cette conviction que Dieu existe, et qu'il nous faut être en paix avec lui, prouve quelque part que la vie après la mort, c'est une réalité. Il nous faut nous positionner par rapport à ces choses. L'homme a cette dimension éternelle et il lui faut choisir sa destinée. Est-ce que tu vas aller au ciel auprès de Dieu ou est-ce que tu resteras pour l'éternité loin de lui? L'apôtre Paul, quand il parle aux Athéniens, il parle d'un jugement. Pourquoi? Parce que le refus de Dieu amène tout un tas de choses sur cette terre, tout un tas de malheurs, de malédictions, parce que des hommes s'entretuent, parce qu'il y a de l'injustice sur cette terre, et un jour, Dieu viendra rétablir toutes choses. Un jour, il y aura un jugement. Ma vie est éternelle, mais est-ce que je vais devoir passer par ce jugement, ou est-ce que je serai auprès de Dieu? Ce jugement, c'est une réalité. et il me faut m'y préparer. Le seul moyen d'être auprès de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Il nous faut nous approcher de Dieu, conscient que dans notre être intérieur, eh bien, on a peut-être tourné le dos à Dieu. C'est là peut-être la première chose. Tourner le dos à Dieu, c'est le péché. Tourner le dos à Dieu, c'est nier son existence alors qu'il existe. Tourner le dos à Dieu, c'est dire que finalement, il n'y a pas de Dieu et que finalement, mon Dieu, ce sera moi-même. Et Dieu, ça, ne peut pas le tolérer. Il nous faut retourner au point de départ. J'aimerais qu'on puisse se recueillir quelques instants. Il y a une prière qu'on peut faire. Pardon de t'avoir tourné le dos, d'avoir nié ton existence. Je veux tout à nouveau te considérer comme Dieu sur ma vie. Je veux que ma vie retrouve un sens. Je crois que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et à l'image de Jésus qui est vivant, je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Et c'est près de toi que je veux être. Cette prière qui dit « Seigneur, viens à mon secours et révèle-toi à mon cœur. » Il y a ce texte dans la parole qui dit ceci. C'est dans le livre d'Osée au chapitre 6 au verset 3. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. » Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Peut-être que tu te dis que dans ton cœur, eh bien, il y a une sécheresse. De cette vie vide de sens, tu aimerais justement voir fleurir des choses, voir fleurir vraiment tous ces bonheurs que Dieu peut te donner parce que ta vie va retrouver un sens. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, si tu t'approches de lui, et par une simple prière, comme je l'ai dit, tu lui demandes simplement, « Seigneur, si tu existes, révèle-toi à mon cœur que je puisse comprendre à quel point j'ai fait fausse route en niant ton existence. Le Seigneur est fidèle et bon. Il est juste pour se révéler à votre cœur si vous le cherchez vraiment, de tout votre cœur. » C'est ce que disait ce texte que j'ai lu en introduction. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous placer devant toi et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que dans ta parole et dans notre nature même, quand on y réfléchit, on voit qu'il y a des traces de ton existence. Oui Seigneur, si l'être humain ici est avide d'avoir un sens à sa vie, de trouver du sens à sa vie. C'est bien parce que tu l'as créé avec cette dimension éternelle. Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons devant toi, nous te demandons ta grâce et je veux te prier, Seigneur, pour que si quelqu'un ce soir a besoin de te connaître, a besoin de te toucher au plus près, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que dans son cœur, il y ait ce cœur sincère qui va l'amener à s'approcher de toi réellement. Et à qui tu pourras te révéler? Parce que c'est ton bonheur que de te révéler à nous. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ton amour. Parce que cette relation, c'est une relation d'amour. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Amen.